crépuscule d'un soir d'été dans la ville de Jody, Texas. L'agglomération est un peu plus grande qu'elle ne l'était en 1963, mais pas beaucoup. Il y a une usine de fabrication de carton dans Beechtree Lane, où Sadie Dunhill avait jadis vécu. Le barbier a disparu, et la station-service City Service, où j'allais faire le plein avec ma Sunliner, est maintenant un 7-Eleven. Il y a un Subway, là où Al Stevens vendait naguère ses prong burgers et ses frites mesquitées. Les discours commémorant le centenaire de Jody sont terminés. Celui prononcé par la femme choisie comme citoyenne du siècle par la Société d'Histoire et le Conseil municipal a été d'une exquise brièveté. Celui du maire, interminable, mais instructif. J'ai appris que Sadie avait elle-même effectué un mandat de maire et siégé 4 fois à la législature de l'État du Texas. Mais ce n'était pas tout. Il y avait son travail associatif, ses efforts incessants pour améliorer la qualité de l'enseignement au lycée de Denholm et son année sabbatique de bénévolat dans la Nouvelle-Orléans de l'après-Katrina. Il y avait le programme pour les lycéens aveugles à la Bibliothèque d'État du Texas. Il y avait une initiative visant à améliorer les services hospitaliers pour les anciens combattants. Il y avait ses efforts incessants et constants, même à 80 ans, pour procurer de meilleurs services sociaux aux malades mentaux indigents. En 1996, on lui avait offert une chance de se présenter au Congrès américain, mais elle avait refusé, disant qu'elle avait largement de quoi faire au niveau du terroir. Elle ne s'est jamais remariée. Elle n'a jamais quitté Jody. Elle est toujours grande, le corps droit et non pas courbé par l'ostéoporose. Et elle est toujours aussi belle, ses longs cheveux blancs flottant dans son dos presque jusqu'à sa taille. Maintenant, les discours sont terminés et Main Street a été fermée. Une bannière à chaque extrémité de la rue annonce « Bal populaire, 19h minuit, venez tous !» Sadie est entourée d'amis et de connaissances, dont je pense encore reconnaître certains. Aussi, je commence ma déambulation par la plateforme du DJ, dressée en face de ce qui était autrefois le Western Auto et qui est maintenant un Walgreens. Le gars qui trifouille dans ses 33 tours et ses CD a la 60aine, des cheveux grisonnants clairsemés et une considérable bedaine. Il a bien changé, mais je reconnaîtrai entre 1000 ses lunettes classiques à monture rose. « Salut Donald !» je lui dis. « Je vois que vous vénérez toujours le mont Rondson. » Donald Bellingham lève les yeux et sourit. « Je pars jamais en soirée sans lui. » « Je vous connais. »« Pas moi, » dis-je. « Ma mère. » »« Elle était à un de vos premiers bals de DJ, il y a belle lurette, au début des années 60. »« Elle racontait que vous aviez piqué ses disques de Big Band à votre père. » Il sourit. « Ouais, je me suis fait passer un fameux savon. »« Qui était votre mère ?»« Andrea Robertson, » je réponds, choisissant le nom au hasard. Andrea était ma meilleure élève de littérature américaine. « Ah oui, je me souviens d'elle !» Son sourire vague me dit le contraire. « J'imagine que vous n'avez pas gardé tous ces vieux vinyles, si ?»« Bon Dieu, non ! Dispersé depuis longtemps. Mais j'ai un grand choix de musique de big band sur CD. Vous avez un truc spécial en tête ?»« Ben, en fait, oui. » Un truc vraiment spécial. Il rit. Est-ce qu'ils le sont pas tous ? Je lui dis ce que je veux, et Donald, toujours aussi désireux de plaire, accepte. Alors que je commence à me diriger vers le côté de la rue où la femme que je suis venu voir reçoit un verre de punch des mains du maire, Donald me rappelle. Vous ne m'avez pas dit votre nom ! Amberson ! Je lui lance par-dessus mon épaule. « George Amberson !»« Et vous voulez ça pour 20h15 ?»« Précise !»« Le temps nous est compté, Donald. »« Espérons qu'il coopérera. » 5 minutes plus tard, Donald Bellingham met le feu à Jody avec Ed the Hop et les danseurs emplissent la rue dans le crépuscule texan. À 20h10, Donald passe un slow d'Alan Jackson, que même les adultes sont capables de danser. Sadie est laissée seule pour la première fois depuis la fin des discours et je m'approche d'elle. Mon cœur bat si fort qu'il semble me secouer tout le corps. « Miss Dunhill ?» Elle se retourne en souriant et en levant un peu les yeux. « Elle est grande, mais je suis plus grand, je l'ai toujours été. »«
Oui ?»«
Je m'appelle George Amberson. Je tenais à vous dire combien je vous admire, vous et toutes vos bonnes œuvres. » Son sourire se fait légèrement perplexe. « Je vous remercie, monsieur. »
Je ne vous reconnais pas, mais votre nom me dit quelque chose. Êtes-vous de Jody ?
Je ne peux plus voyager dans le temps et je ne peux assurément pas lire dans les pensées, mais je sais ce qu'elle pense malgré tout. J'entends ce nom dans mes rêves. Oui et non. Et avant qu'elle ne puisse creuser la question, puis-je vous demander ce qui a motivé votre intérêt pour le bien commun ? Son sourire n'est plus qu'un fantôme musardant au coin de ses lèvres.
Et vous voulez le savoir parce que...
Est-ce à cause de l'assassinat ? L'assassinat de Kennedy ?
Eh bien, je suppose que oui, d'une certaine façon. Je me plais à penser que je me serais de toute façon impliqué dans les affaires du monde, mais... Je suppose que cela a commencé là. Cette tragédie a laissé à cette partie du Texas une telle...
Sa main gauche s'est portée involontairement à sa joue avant de retomber.
Une telle cicatrice... Monsieur Amberson, d'où est-ce que je vous connais ? Parce que je suis sûr de vous connaître.
Puis-je vous poser une autre question ? Elle me considère avec une perplexité croissante. Je consulte ma montre. 20h14. Presque l'heure. À moins que Donald n'oublie, bien sûr, mais je ne pense pas qu'il oubliera. Pour citer l'une de ses vieilles chansons des années 50-60, certaines choses sont destinées à arriver. Le bal Sadie Hawkins de 1961. Avec qui avez-vous assuré la surveillance, finalement, quand la mère de l'entraîneur Borman s'est cassée la hanche ? Vous vous souvenez ? Sa bouche s'ouvre, puis se referme lentement. Le maire et son épouse s'approchent, nous voient en grande conversation et changent de cap. Nous sommes dans notre petite capsule temporelle à nous. Rien que Jake et Sadie. Comme il était une fois.
« Don Haggerty, » me dit-elle. « C'était comme surveiller un bal avec l'idiot du village. Monsieur Amberson... »
Mais avant qu'elle puisse finir, Donald Bellingham intervient, par 8 grands haut-parleurs interposés juste au bon moment.
« Et maintenant, Jody, voici un souffle du passé, une pépite explosive et un spécial dédicace qui se joue pas à pile ou face !»
Et elle démarre. Cette intro de cuivre sensuel joué par un orchestre mythique depuis longtemps disparu.
Oh mon Dieu ! In the mood !
S'exclame Sadie.
Qu'est-ce que j'ai pu danser le lindy sur celle-là ?
Je lui présente ma main. Venez, on va le faire. Elle rit en secouant la tête.
Mes folles années swing sont loin derrière moi, monsieur Amberson. J'en ai peur.
Mais vous n'êtes pas trop âgé pour valser. Comme disait Donald dans le temps,
levez vos fesses et tricotez des gambettes.
Et appelez-moi George, je vous en prie. Dans la rue, des couples dansent le jitterbug. Quelques-uns s'essaient même au Lindy Hop, mais aucun d'entre eux ne s'est swingé comme Sadie et moi on swingait à l'époque. Il s'en faut de beaucoup. Elle prend ma main comme une femme en plein rêve. Elle est dans un rêve, et moi aussi. Comme tous les rêves délicieux, celui-ci sera bref. Mais c'est de la brièveté que provient le délice, pas vrai ?
Oui, je le pense. Parce que le temps, une fois écoulé, on ne peut plus le rattraper. Des lumières de fête illuminent la rue. Jaunes, rouges, vertes. Cédie trébuche sur une chaise, mais je me tiens prêt et je la rattrape facilement par le bras.
Désolé, je suis maladroite.
Laisse-t-elle échapper. Vous l'avez toujours été, Cédie. C'est l'un de vos traits les plus attachants. Avant qu'elle puisse s'en étonner, je glisse mon bras autour de sa taille. Elle glisse le sien autour de la mienne, me regardant toujours dans les yeux. Les lumières miroitent sur ses joues et brillent dans ses yeux. Nous joignons nos mains. Nos doigts se nouent naturellement. Et pour moi, les années se dérobent, comme un manteau trop étriqué et trop lourd qui traîne mes épaules. À cet instant, j'ai l'espoir d'une seule chose par-dessus tout. Qu'elle n'ait pas été trop occupée pour se trouver au moins un homme bien, un qui ait définitivement relégué cette saloperie de John Clayton au placard. Elle parle d'une voix presque trop faible pour que je l'entende par-dessus la musique, mais je l'entends. Je l'ai toujours entendue.
« Qui es-tu, George ?»«
Quelqu'un que tu as connu dans une autre vie, chérie. » Alors, la musique nous prend. La musique abolit les ans. Et nous dansons.
2 janvier 2009, 18 décembre 2010, Sarasota, Floride, Lowell, Maine. Thank you.